Radio Kapi.
À l'écoute de Radio Kapi, il est très précisément 12h à Kinshasa. Voici votre journal. Au Nord Kivu, une nouvelle attaque de rebelles ougandais de la DEF a coûté la vie à 22 civils. C'était hier dans la localité de Mwenda, en représailles à la défaite infligée aux assaillants par les FARDC avec l'appui des casques bleus de la MONUSCO à Losélosé. Ouverture ce mardi ici à Kinshasa d'une session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Au menu, l'installation du bureau définitif et l'examen de quelques lois de ratification et s'assurer le contrôle parlementaire. Notre invitée, c'est la coordonnatrice nationale intérimaire du programme intégré de réhabilitation de l'agriculture. Nathalie Kapunga affirme que le PIRAM a réhabilité 555 km de route. 77 000 ménages ont reçu des semences améliorées et réaménagées. 50 sources d'eau potable. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, Messieurs, bonjour au micro. Pascal Masirika, mise en onde de Dieudonné Nyangassa. 22 civils tués et plusieurs autres portés disparus. C'est le bilan encore provisoire de l'incursion d'hier lundi des rebelles ougandais de la DEF dans le village de Mwenda, situé à 9 km au nord de Mutwanga, chef-lieu du secteur de Rwenzori, en territoire de Beni. D'après les sources sécuritaires, les massacres de Mwenda seraient des représailles de ces rebelles contre des civils après la défaite qui leur a été infligé par les FARDC avec l'appui des casques bleus de la MONUSCO à Losélosé le week-end dernier. À Beni, le récit de Sekombi Katondolo.
D'après les sources locales, les rebelles des ADF seraient venus du côté des Kiavikere pour s'attaquer aux populations civiles dans le village de Mwenda. La société civile du secteur de Rwenzori parle de 22 civils tués et plusieurs autres portés disparus. Wilson Batoleni, son président.
Avec cette incursion, l'ennemi a massacré 22 personnes. 22 personnes, c'est le bilan encore pour joie, mais on continue à vérifier s'il n'y a pas d'autres personnes massacrées. Et les personnes portées disparues que là ne sont pas identifiées.
D'après plusieurs sources sécuritaires contactées, il parle plutôt de représailles de ce rebelle de l'ADF sur la population civile de Mwenda après la reconquête vendredi dernier de Losélosé par le FARDC appuyé par la MONUSCO. L'attaque avait fait 14 morts du côté de l'ennemi. Le porte-parole des opérations militaires Sokola 1, secteur opérationnel Grand Nord, le lieutenant Anthony Mwalushai, a promis de se prononcer après la réunion avec les commandants des opérations qui restent, selon lui, très préoccupé par la situation dans les Rwenzori. Beni, c'est Sekombi Katondolo, Radio Okapi.
En plus bref, dans un communiqué signé à Kinshasa par sa présidente Jeannette Kabila, la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale demande au gouvernement d'élucider avec diligence à travers une enquête approfondie les circonstances malheureuses et exactes de ce double accident et d'autres crashs enregistrés ces derniers temps par les aéronefs des FARDC afin d'une meilleure prise en charge du secteur. Concernant le crash des deux hélicoptères de FARDC, la commission donne un bilan plus lourd de 11 morts, dont 7 militaires et 4 pilotes congolais. Le Front commun pour le Congo FCC s'est dit vivement préoccupé par la situation sécuritaire dans l'Est, avec notamment des massacres de la population à répétition, mais aussi la mort des pilotes des FARDC. Dans leur déclaration ce dimanche, les présidents des regroupements politiques du FCC ont dénoncé la création, selon eux, d'une crise artificielle, alors que la situation tant économique, sécuritaire que sanitaire du pays demeure préoccupante. Pour le porte-parole du FCC, au lieu de déstabiliser les institutions pour un intérêt des individus, il était plus que temps de consolider la coalition FCC-CACH afin d'apporter des solutions aux problèmes de la population. Félix Kabangenumbi est au micro de Michel Kefindangoy.
Le véritable défi aujourd'hui de la RDC n'est pas cette crise imaginaire qu'on est en train de créer, cette crise artificielle. Il faut résoudre les vrais problèmes des Congolais. Nous sommes déçus qu'on passe du temps au moment où les gens sont en train de mourir à l'est de la République, au moment où les FARDC sont en déroute sur certains sites par manque de logistique et d'organisation, au moment où nous nous rendons compte que des jeunes pilotes fleurons de l'aviation, des forces armées de aériennes de la République démocratique du Congo sont en train de mourir, nous nous rendons compte que malheureusement ceux qui sont appelés à compatir et à trouver des solutions se résument dans la danse, les chants, les réjouissances et dans la violation de la Constitution. Les vrais problèmes, c'est aussi les défis sur le plan sécuritaire, mais également les défis socio-économiques. Dans quelque temps, on ne saura même plus payer les salaires des agents. Nous sommes dans une situation difficile avec l'impact de la Covid. Je pensais justement que c'était le moment de garder la nation unie et de travailler sur les intérêts de la population.
Roger Lumbala, un ancien chef rebelle, seigneur de guerre dans l'est de la RDC cité dans le rapport Mapping, est arrêté depuis la fin du mois de décembre dernier à Paris en France. Il est accusé notamment pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. L'ONG Justicias Bell salue cette arrestation de Roger Lumbala et demande que les autres personnalités citées dans le même rapport soient également poursuivies pour lutter contre l'impunité et rétablir les victimes dans leurs droits. Maître Timothée Mbouya, président de Justicias Bell, l'a dit au micro de Jean Gandou.
L'arrestation de Roger Lumbala par les juges d'instruction français est saluée par Justicias Bell dans la mesure où les juges d'instruction français viennent de mettre en exercice sa compétence universelle pour lutter contre l'impunité des crimes graves qui sont commis en RDC et qui ont été répertoriés par les rapports Mapping. Justicia espère que plusieurs autres personnalités épinglées par ces mêmes rapports seront poursuivies et condamnées pour permettre aux victimes de rentrer dans leurs droits. Justicia saisit l'occasion pour demander au Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi qu'à l'Union européenne et l'Union africaine de mettre tout en œuvre pour que la création d'un tribunal spécial pour la RDC voit le jour afin de lutter efficacement contre l'insécurité et les crimes graves qui sont commis dans ce pays.
Un signe encourageant dans le cadre de la lutte contre l'impunité des violences graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commis en République démocratique du Congo. C'est en ces termes que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a réagi hier lundi à la suite de l'arrestation de Roger Lumbala à Paris en France. Ce Bureau des droits de l'homme note aussi que le leader du RCDN, un ancien groupe armé, est poursuivi pour des faits documentés dans le rapport Mapping et espère que d'autres auteurs présumés des crimes répertoriés dans le même rapport Mapping, congolais ou étrangers, seront aussi rattrapés par d'autres actions judiciaires. À Ituri, pendant 7 ans, le conseil urbain de la jeunesse de Bounia appelle les jeunes à ne pas se laisser manipuler par des hommes politiques pendant cette période de turbulences politiques au pays. Cette structure l'a déclaré lundi dans son message de vœux. Son président plaide aussi contre l'enrôlement de jeunes dans les groupes armés qui pullulent dans cette province. Jules Taguirabo invite la jeunesse à demeurer unie sans distinction d'appartenance communautaire. On écoute un extrait de son message choisi par Martial Kizabiamungu.
Cette année 2021, pendant cette période de turbulence politique que traverse notre pays, je demande aux jeunes de ne pas se laisser manipuler par les politiciens à quête de positionnement qui utilisent la jeunesse comme échafaudage pour atteindre leurs objectifs et ensuite abandonner cette dernière à son triste sort. Ce message s'adresse également aux ennemis de la paix qui attirent la jeunesse à adhérer dans les groupes armés pour détruire et endeuiller notre province de l'Ituri. Que les jeunes qui sont à Brousse dans les différents groupes armés rentrent à la maison pour se joindre à nous afin de participer ensemble aux efforts communs de reconstruction et de développement de la ville de Bounia et de la province de l'Ituri en général. Pour résoudre leurs différends, les jeunes doivent toujours apprêter le chemin du dialogue et d'avoir l'esprit de pardon, signe de l'unité.
Et puis le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de commandant suprême des FARDC, a présidé ce mardi la cérémonie solennelle d'ouverture de l'école de guerre de Kinshasa au centre supérieur militaire situé dans la commune de Ngaliema. Outre la présence des officiers, des hauts rangs et d'autres personnalités, il y avait aussi un représentant du gouvernement français. Retenez que la France est en principe le partenaire principal dans la réalisation de ce projet initié par le chef de l'État. Autre nouvelle sur Radio Okapi, le groupe d'action non-violence évangélique GANV, une ONG de défense des droits de l'homme, s'indigne de la recrudescence de la criminalité perpétrée par des hommes armés en uniforme. C'est ce qu'indique un communiqué de presse publié hier lundi à Lubumbashi. D'après cette ONG, il ne se passe pas deux jours sans que des cas de viol, de vol à main armée ne soient enregistrés dans la ville alors que le pays est sous couvre-feu. Des précisions avec le secrétaire de cette ONG, Emmanuel Kifungo, s'est confié à Jean Gandou.
Il ne se passe pas deux jours sans qu'on enregistre des cas de vol à main armée, des cas d'extorsion, de braquage. Malgré l'instauration du couvre-feu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, comment ces criminels réussissent à déjouer les dispositifs mis en place pour le couvre-feu et aller opérer tranquillement dans les maisons des paisibles citoyens sans qu'aucune intervention ne puisse être visible sur le terrain? Le dernier cas en date est survenu dans la nuit du 3 au 4 janvier dans la commune Katouba, sur l'avenue Kabongo. Des hommes en armes et en uniforme ont opéré tranquillement de 1h du matin à 1h45. Nous recommandons à l'auditeur des garnisons de Lubumbashi d'ouvrir sans désemparer et en toute indépendance des enquêtes pour arriver finalement à mettre la main sur ces inciviques qui créent la mort et la désolation au sein de la population civile. Nous recommandons encore une fois à l'auditeur des garnisons d'ouvrir chaque fois une information judiciaire à l'encontre des commandants des escadrons affectés dans les lieux où le vol est commis chaque fois.
L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce mardi au cours de la plénière prévue en début d'après-midi aujourd'hui à Kinshasa de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale, convoquée dimanche dernier par le président du bureau d'âge, Mboso Kodia, conformément aux articles 100, 111, 112 et 116 de la Constitution. Cette session extraordinaire ira jusqu'au 3 février prochain. D'après un communiqué signé par le rapporteur du bureau d'âge, il sera question au cours de cette session d'installer le bureau définitif de l'Assemblée nationale, d'examiner quelques lois de ratification et s'assurer le contrôle parlementaire. Quels sont les enjeux de cette session extraordinaire? Tentative de réponse avec vous, Michel Kefindangoy.
Annoncée depuis la clôture solennelle de la session budgétaire par le président du bureau d'âge, cette session ainsi convoquée s'avère éminemment politique au regard du contexte des crises observées depuis l'année dernière entre le FCC de Joseph Kabila et le CACH de Félix-Antoine Tshisekedi. Après la destitution du bureau Mabunda, cette session devrait prioritairement doter à l'Assemblée nationale un nouveau bureau reconfiguré. Le FCC multiplie des réunions stratégiques pour aligner un ticket gagnant à tous les postes du prochain bureau. L'Union sacrée du président de la République, elle aussi, a même réuni plus de 300 députés dimanche dernier pour se rassurer de l'existence réelle d'une nouvelle majorité parlementaire. Le chef de l'État a même invité les députés à voter pour les tickets qu'il va présenter. Il sera aussi question au cours de cette session de procéder par le contrôle parlementaire à la destitution du gouvernement Ilunga et à l'investiture d'un nouveau gouvernement émanant de la nouvelle majorité. D'après certaines indiscrétions au sein de l'Union sacrée, une motion de censure contre le gouvernement est même déjà prête et sera déposée si jamais le Premier ministre Sylvestre Ilunga ne déposait pas sa démission.
Politique encore, la fédération de la Mouka Kikwit dit prendre acte de la désignation par le président de la République d'un informateur. Dans une déclaration rendue publique hier lundi, la Mouka Kikwit indique que cette désignation intervient alors qu'une majorité parlementaire existe déjà et qu'un gouvernement est en place. Elle condamne ce qu'elle qualifie de prostitution des acteurs politiques congolais qui naviguent entre le FCC, le CACH et la Mouka à la recherche de leurs intérêts personnels. On écoute un extrait de cette déclaration lue par Maître Ronsard Nguindou, communicateur de la Mouka Kikwit, dans des propos recueillis par Irène Boma.
Nous, état-major de la Mouka Kikwit, prenons acte de désignation d'un informateur dans un régime où la majorité était identifiée, d'où un gouvernement en pleine fonction. Cette théâtralisation politique dont les mêmes acteurs font la prostitution politique les matins à l'FCC, à midi à l'Union Sacrée, les soirs à la Mouka. Dans tous ces camélionisme et honte politique, nous demandons les élections anticipatives pour que le peuple désigne leurs représentants dignes et responsables. Nous tenons à informer l'opinion nationale tant internationale que l'Union sacrée et l'FCC bis. Nous demandons un éveil patriotique afin de mettre en œuvre une nouvelle classe politique pour la stabilité de notre pays.
Actualité internationale.
Au Niger, un deuil national de 3 jours a été décrété. C'est l'une des décisions annoncées hier lundi après-midi par le ministre de l'Intérieur après l'attaque samedi dernier des 2 villages de l'ouest du pays faisant 100 civils tués. Ce massacre n'a toujours pas été revendiqué, mais les autorités du pays l'attribuent à des djihadistes. Elles craignent que cette violence alimente de plus en plus des conflits intercommunautaires. Le rythme des croisières de la vaccination contre le coronavirus en France va rejoindre celui des voisins dans les prochains jours. C'est ce qu'a promis ce mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran, pour tenter de répondre aux critiques sur la lenteur du démarrage de cette campagne de vaccination. Le président Touadéra a été déclaré réélu lundi au premier tour par l'autorité nationale des élections en République centrafricaine avec plus de 53% des suffrages exprimés devant l'opposant Anissa. C'est Golondelé. Elle dénonce le manque de transparence et d'équité de ces élections organisées au pays dont la moitié de l'électorat a été privée en raison d'une nouvelle offensive rebelle au cours du pays.
L'invité.
Notre invitée, c'est la coordinatrice nationale intérimaire du programme intégré de réhabilitation de l'agriculture au Maniema, où le PIRAM a achevé son programme. Il a réhabilité 555 kilomètres de route. 77 000 ménages ont reçu des semences améliorées, réhabilité 4 dépôts pharmaceutiques, dont 4 bassins de production et réaménagé 50 sources d'eau potable. Nathalie Kapunga en parle au micro de Florence Kizalunga.
Madame Nathalie Kapunga, bonjour.
Bonjour madame, les journalistes.
Vous êtes la coordonnatrice nationale intérimaire du PIRAM. Aujourd'hui, PIRAM vient de clôturer son programme au Maniema. Peut-on savoir ce que PIRAM a fait dans la province du Maniema?
Oui, le PIRAM, c'est le programme intégré de réhabilitation de l'agriculture dans la province du Maniema et qui a commencé depuis 2011 ici au Maniema et qui vient de s'achever ici en 2020. Le PIRAM a été structuré autour de 3 composantes techniques et la 4e composante coordination et gestion du programme. Donc dans ces 3 composantes techniques, la réhabilitation des infrastructures et des voies de desserte agricole, nous avons réhabilité la route Kindu-Kasongo-La RN31 long de 240 km. Nous avons réhabilité les voies de desserte agricole. Nous avons réhabilité les ponts en béton armé. Dans cette composante, nous avons réhabilité vraiment les infrastructures. Au moins 555 km ont été réhabilités et nous avons entretenu aussi les routes. Par rapport à la composante appui à la relance agricole, nous avons appuyé les agrimultiplicateurs, nous avons appuyé les ménages, plus de 77 000 ménages dans la zone d'intervention parce que PIRAM est intervenu dans 4 bassins de production qui étaient considérés comme des territoires, Kasongo, Kabambare, Kibombo et Pangi. C'était ça la zone d'intervention du PIRAM. Donc nous avons appuyé tous ces ménages-là avec la semence améliorée, les boutures saines de manioc, les alevins de bonne qualité. Au moins plus de 77 000 ménages ont été appuyés par rapport à ça. Et plus de 55 agri-multiplicateurs ont été appuyés aussi pour la production et la multiplication des semences de bonne qualité. La 3e composante, c'est la composante appui amélioration de la situation sanitaire et de l'accès à l'eau potable. Là, nous avons aussi réhabilité au moins 4 dépôts pharmaceutiques dans les 4 bassins de production. Nous avons réhabilité aussi des centres de santé. Nous avons aussi aménagé plus de 50 sources. Nous avons aménagé aussi plus de 10 forages dans la zone d'intervention pour permettre à ce que la population ait l'accès à l'eau potable afin de réduire les maladies d'origine hydrique. Et la 4e composante, c'était la composante coordination et gestion de programme. Voilà un peu brièvement ce que nous pouvons savoir du du PIRAM.
Est-ce que vous êtes satisfait des résultats obtenus?
Oui, effectivement, nous sommes, personnellement, je suis satisfaite en tant que représentante du PIRAM. Vraiment, nous avons atteint les résultats parce que PIRAM a été vraiment évalué comme un projet performant. Nous avons atteint les résultats et aujourd'hui, les PIRAM, avec l'évaluation ou l'atelier qu'on vient de faire, la restitution des consultants internationaux, ils disent que vraiment les PIRAM est atterri sur une note satisfaisante. Donc, nous aussi, nous sommes satisfaits du travail que les PIRAM a fait dans les maniements, dans les quatre territoires ou bassins de production.
Ce résultat peut être estimé à combien de pourcents?
Bon, ce résultat peut être estimé à plus de 80%. Parce que là, si nous regardons sur le plan physique, avec la restitution que nous venons d'avoir tout de suite, nous sommes arrivés à 88% contre 94% des réalisations financières.
PIRAM ferme au maniement, quel espoir a donné à la population?
Oui, PIRAM ferme ou clôture au maniement son programme, mais parce que c'était un projet qui a été évalué comme un projet satisfaisant, il a fait naître un nouveau projet de 130 millions qui va maintenant étendre son rayon d'action dans quatre provinces de la République, notamment au Maniema. Ça va s'étendre dans les sept territoires de la province du Maniema. Donc les sept bassins de production seront couverts par le nouveau projet qu'on appelle le projet PADRIR, qui va toujours évoluer dans les domaines agricoles, mais beaucoup plus dans l'approche chaîne de valeur.
Madame Nathalie Kapunga, nous vous remercions.
C'est moi qui vous remercie, Madame la journaliste.
C'était l'invitée de Radio Okapi, Madame Nathalie Kapunga, coordonnatrice nationale intérimaire du programme intégré de réhabilitation de l'agriculture au Maniema, interrogée par Florence Kizalunga, et c'est la fin de cette édition. Il est 12h20 à Kinshasa. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Babel Mpongo Massimango qui a coordonné cette édition placée sous la supervision éditoriale de Pelé Kipelamondo.